Cette illégibilité propre de la réalité physique repose sur la découverte d'un principe propre efficient et non pas final. À partir de la question de l'origine et non pas de la finalité, on peut comprendre la nature comme principe et cause de mouvement pour la chose en laquelle elle réside immédiatement, par essence et non par accident. Mais peut-on comprendre la nature comme principe de repos ? Le repos n'est-il pas nécessairement lié à la finalité ? Comment aussi comprendre ce que dit Aristote plus loin ? Chaque chose est dite être ce qu'elle est plutôt quand elle est en acte que quand elle est en puissance. Et dans Politique 1, 2, la nature d'une chose est sa fin, puisque ce qui est chaque chose, une fois qu'elle a atteint son complet développement, nous disons que c'est là la nature de la chose. En outre, la cause finale, la fin d'une chose, est son bien, le meilleur, et le plein. La pleine suffisance est à la fois une fin et un bien par excellence. N'opposons pas efficience et finalité, mais comprenons ce qui est explicite et ce qui est implicite. Il est bien évident que la nature est fin, mais nous ne découvrons pas au plan de l'induction de la nature comme fin. On explicitera ensuite la nature comme fin. Et pour expliciter la nature comme fin, il faut passer par la médiation de la nature forme. Quant à dire que le repos implique la finalité, c'est sûr. Mais c'est aussi l'opposé du mouvement. Il y a deux manières de comprendre le repos. Vous pouvez comprendre le repos dans le lieu, vous pouvez comprendre le repos comme tout simplement ce qui ne bouge pas, la négation du mouvement. Vous voyez ? Alors, je crois qu'il faut bien préciser, alors c'est pour ça que je reprendrai là, si on dit l'intelligibilité propre de la réalité physique repose sur la découverte d'un principe propre efficient et non pas final. Je supprime et non pas final, ça c'est trop. On explicite une négation qui n'est pas impliquée dedans. Donc à partir de la question il repose sur la découverte d'un principe propre efficient. Principe propre du mouvement, même je dirais. À partir de la question de l'origine, et non pas de la finalité, je supprime. C'est pas impliqué. Mais là on explicite quelque chose qui ne vaut plus, puisque ensuite on expliquera la finalité. Donc c'est impliqué virtuellement. Et implicitement, on peut comprendre la nature comme principe et cause de mouvement pour la chose en laquelle elle réside immédiatement, par soi et non par accident. Plutôt que par essence, je mettrais par soi. Le katoto, c'est plutôt par soi que par essence. Parce que déjà, quand on dit par essence, on précise un des katoto. Et le katoto est plus général que par essence. Et puis c'est l'opposé, par et non par accident. Donc, je crois qu'il faut bien prendre formellement, quand je dis qu'on découvre un principe propre et fils du mouvement, on ne veut pas dire du tout que ce principe propre n'est pas principe de la finalité, n'est pas finalité. On l'explicite ensuite. Alors là, très bien. Le tout qui n'estaille d'hier est un infinitif, présent, moyen ou passif. C'est la même forme. On peut peut-être pencher pour le passif. Alors, dites un peu ce que vous précisez dans votre grammaire grecque sur le moyen. Oui, la derrière, derrière Gabriel.
Le moyen désigne une action dont le résultat reste en rapport avec le sujet, soit qu'elle s'exerce à son profit, soit qu'elle s'exerce en lui-même, soit qu'il y prenne directement part.
Oui.
Le passif a été formé à partir du moyen.
Au fond, c'est la même forme, donc on peut. On n'est pas sûr que c'est le moyen. On n'est pas sûr. Le latin traduit comment ?
Je n'ai pas trouvé.
Allez, pas trouvé. Oui. On regardera pour le latin. C'est toujours intéressant, parce que la traduction latine, surtout l'antiquois, est très très fidèle. C'est un mot à mot. Et d'une certaine manière, ils étaient plus proches que nous. Et voyez mieux. Alors, qu'est-ce qui fait dire que c'est un moyen ? Puisque spontanément, hier, on a dit un moyen. Qu'est-ce qui s'est dit que c'est la forme, le moyen ? Est-ce que vous pourriez expliciter ou pas ? Oui.
Au présent, l'infinitif présent, moyen et passif, est le même.
Oui, c'est pour ça, c'est ce qu'on dit.
Donc ça peut être aussi bien un moyen que...
Oui, c'est ce qu'on vient de dire, le passif. Mais alors pourquoi on a dit spontanément le moyen ?
Hier, je croyais que c'était un artiste, alors je me suis confondu.
Ah oui, oui, mais bon, oui, c'est ça. Donc vous aviez cru, mais au fond, il n'y a pas de raison. D'après le sens, hein, donc, je prends le point de vue. Je vois très bien, c'est très difficile, hein, c'est toujours très difficile de traduire le passage d'une langue à l'autre, parce qu'il y a un génie différent. Le moyen, je partirai, je penche vers le passif à cause du fait qu'on part de ce qui est mu. Et donc, on prend le principe de ce qui est mu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Et c'est justement, c'est ça qu'on... Oui, c'est ça qu'on veut dire. Venez. Hier, on était parti spontanément sur le moyen. Et puis, ce qu'on vient de dire ici, le tout qui n'est pas d'hier est un infinitif présent. Moyen ou passif. C'est la même forme. Donc, rien n'incline d'un côté ou de l'autre. Il faut donc être intelligent. Puisque la simple forme grammaticale ne nous permet pas de dire que c'est un passif ou un actif, ou un moyen. Oui.
Il me semble que c'est comme un infinitif substantivé. Il me semble que c'est moins commun que ce soit un passif. Normalement, l'infinitif passif, c'est moins apte en grec pour former des infinitifs substantivés.
Oui, mais faisons attention, on est dans une langue philosophique. Hein ? C'est pas la littérature. C'est ça qui est très difficile. Il y a un génie de la langue d'Aristote qui est propre à Aristote. Ça, il me semble. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que la forme, l'infinitif, comme il est précis, tout qui n'est pas, est-ce que c'est plus juste de dire le être mu que le se mouvoir ? Bon, se mouvoir, moi je le verrais. Être mu, c'est là la difficulté, là on interprète, c'est sûr. Mais je me demande si c'est pas plus proche. Moi, personnellement, mais ça c'est des choses qui ne s'analysent pas. Hein. Je dirais personnellement que je prends plutôt le passif, étant donné qu'on est parti de l'être mu. Si on est parti de l'être mu, et non pas de celui qui se meut, on découvre le principe de l'être mu, et non pas autre chose. Donc, philosophiquement parlant, si grammaticalement je ne fais pas de contresens, moi c'est toujours ce que je dis, hein, philosophiquement parlant, j'opte pour être mu. Je demande aux grammairiens et aux philologues si, selon le texte, je ne fais pas de contresens. Si on me dit « on peut le traduire », alors je dis « bon, c'est suffisant ». Je demande, parce que la philologie ne nous donne pas et ne peut pas trancher. c'est le sens philosophique qui peut seul trancher. D'une façon générale, hein, je dis ça aussi bien pour la traduction de saint Thomas que pour Aristote. Seule la pensée philosophique qui peut trancher. Nous partons de ce qui est mu, ça c'est sûr. Si on part de ce qui est mu, on découvre le principe de ce qui est mu. C'est une logique imperturbable. Donc on découvre le principe de ce qui est mu. Si on me dit « attention, c'est le moyen », vous ne pouvez pas traduire ça tout à fait comme ça. Mais si on me dit « ah, c'est possible », alors je traduis « être mu ». Et je dis « corriger ». Vous voyez ? Parce qu'il s'agit de la définition de la nature, je dis « corrigeons » et ne disons pas que c'est le point de vue, un certain principe et la cause du fait de se mouvoir, d'être mu, du fait d'être mu. Oui. Oui, mais il n'y a pas de raison.
Attendez. Ça serait cette traduction que la réalité existante me pour soi. Comment est-ce que vous comprendriez ça? Est-ce que vous trouveriez un non-sens philosophique, au point de vue philosophique, dans cette traduction? La réalité existante me pour soi. Parce que ça, de fait, c'est le moyen. Tel qu'on apprend dans la mer, c'est le moyen.
Alors vous diriez ceci. La nature étant ainsi, un certain principe est la cause du fait de mouvoir pour soi.
Oui, au moyen, tel que je l'ai appris, moi, le moyen.
De mouvoir pour soi. Voyez, alors, je dis, bon, c'est très bien. Je peux traduire comme ça. Je dis simplement que je suis en face d'une induction. Ça, c'est net, on est en face d'une induction. On est parti de l'expérience de être ce qui est mu. Et on découvre le principe de quoi? Du point de départ. Vous voyez? Alors, quand je dis principe du fait d'être mu, je veux montrer que ce principe est immanent du fait d'être mu. C'est le fait d'être mu dont on saisit le principe. Non, je ne pars pas du mouvoir pour soi, je pars tout simplement de la constatation d'une réalité qui est mue. L'induction part de là, la constatation d'une réalité qui est mue. Toutes les réalités que vous constatez dans l'ordre physique, elles sont mues. Et vous partez de cette constatation. À la différence du vivant, vous partez de quelqu'un qui se meut. Et le moyen, qu'est-ce que vous constatez? L'expérience, qu'est-ce que vous constatez lorsque vous constatez une réalité physique? C'est ça qu'il faut partir, c'est le point de départ. Quel est le point de départ de l'induction? Oui, vous dites déjà, le moyen n'est pas dans la constatation. Vous constatez une réalité qui est mue. Quand vous dites « je pars du mouvement », en réalité, on ne part pas du mouvement, on part d'une réalité qui est mue. Il faut réfléchir là-dessus, parce que c'est intéressant, vous êtes obligés là-dessus devant. Mais comprenons bien que tout écrit philosophique doit s'interpréter philosophiquement. Ça, j'y tiens beaucoup, contre les philologues. Contre, voyez, au-delà de la philologie. La philologie ne peut pas servir de principe propre d'un texte philosophique. Je connais l'histoire parce qu'à Fribourg, on a lutté contre un philologue qui ne comprenait absolument pas ça. Et j'avais beau indéfiniment lui montrer qu'il ne comprenait rien à la philosophie avec sa philologie pure et simple. Parce que le texte Fusein chez Aristote n'a pas le même sens en philosophie de la nature, en éthique et en métaphysique. Il n'a jamais compris. Je dis, prenez fusail. Bon, point de vue philologique, vous prenez fusail. Vous le trouvez dans trois lieux. Faites pas attention. Alors vous êtes obligé de l'interpréter autrement en philosophie de la nature, en éthique, et en philosophie du vivant, et en métaphysique. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qui sert d'interprétation dans un texte philosophique ? C'est de comprendre la philosophie de celui qui nous écrit philosophiquement. Aristote a l'intention de faire un écrit philosophique. Il fait de la philosophie en faisant de la philosophie de la nature. Bon, il se sert d'un langage humain. Ce langage humain n'est pas adapté à la philosophie. Parce que ce langage humain est adapté à acheter des carottes. Donc, il n'est pas adapté à la philosophie. Dès qu'il est pris dans un contexte philosophique, forcément, il est un peu obligé de lui donner quelque chose de différent. Cependant, on respecte la philosophie. Vous voyez, quand on est obligé de mettre des « en tant que », « to on » et « on », c'est pas du tout du bon classique. On est obligé de forger un peu son langage, philosophiquement. Tout philosophe forge un peu son langage. Il est obligé. Vous voyez, comme le poète, lui, à sa manière aussi, le forge. Et c'est pour ça que je dis bien... On essaie de comprendre philosophiquement, et cette compréhension qu'on donne, on demande au philologue, à ce point de vue-là, qui est très important, si ce que je dis est en contradiction avec le texte tel qu'il est dit. Si on dit non, ce texte, on peut l'interpréter comme ça, c'est suffisant. Oui. Je crois que d'une manière générale, c'est comme ça qu'on doit, du moins, personnellement, c'est comme ça que je fais. Parce qu'une traduction matérielle, sans tenir compte que nous sommes en philosophie, ne respecte pas l'intention profonde de l'auteur. Vous voyez ? L'intention profonde de l'auteur, c'est de nous introduire en philosophie de la nature. L'intention de l'auteur, c'est de nous introduire en éthique. L'intention de l'auteur, c'est de nous introduire en philosophie première. Et alors cette intention de l'auteur, je dois tenir compte, puisqu'au fond, l'auteur, quand il écrit, il veut me transmettre ce qu'il pense. Évidemment, s'il ne pensait rien, l'absolu serait le mot. Mais s'il pense quelque chose, et que le mot transmet ce qu'il pense, or Aristote a dit textuellement ça. Donc je ne peux pas dire, j'impose à Aristote quelque chose qui n'est pas de lui. Aristote dit lui-même que les mots traduisent nos pensées. Et donc, si nos mots traduisent nos pensées, je ne m'arrête pas aux mots, je m'arrête à la pensée. Je me sers du mot pour aller jusqu'à la pensée. Oui. Et c'est un exemple très, très, très joli, ça. Parce que dès qu'on met, quand on essaie de saisir ce que c'est que la nature, on est au-delà du langage. Et on est en face d'une intelligence qui saisit un principe. Et qui essaie de nous faire comprendre qu'est-ce que c'est que ce principe. Donc je ne peux interpréter la manière dont Aristote nous parle de la nature qu'en saisissant la nature. Et tant que je n'ai pas saisi la nature comme principe immanent de la réalité qui est mue, je ne saisis pas ce principe. Vous voyez ? Je crois que d'une façon générale, c'est ce qu'on doit faire quand il s'agit d'interpréter, puisque toute traduction interprète. Alors, le langage est très important, hein, faut pas du tout le mépriser. Le langage est très important, mais le langage, un peu garde-fou, hein, ne va pas plus loin, ne peut pas aller plus loin. Respectons ce qu'il dit. Et quand vous écrivez, quand vous écrivez un petit écrit philosophique ou théologique. Et vous savez bien que vous ne faites pas de la poésie. Surtout si vous êtes poète. Vous savez que vous faites un devoir de théologie. Et donc, votre devoir de théologie, vous essayez d'appliquer votre langage à ce que vous voulez dire. Et vous dites vous-même que si vous étiez en dehors de la théologie, et que vous pouviez exprimer librement, vous prendriez d'autres expressions. On a tous en mémoire certains textes théologiques ou philosophiques transmis par des poètes. Bon, juste les aspects formels auxquels on tient, le poète prend une formule métaphorique. C'est très amusant, c'est une expérience qu'il faut faire, tu vois ça. Quand vous faites un cours de philosophie, vous avez devant vous un poète ou une poétesse, n'est-ce pas ? Et là, vous lui demandez, traduisez ça à votre manière. Eh bien, faites-le le chose. C'est important à faire, parce qu'il y a un phénomène humain, là. De voir que le langage philosophique a une rigueur que le langage poétique n'a plus. Il ne peut plus avoir. Le poète, instinctivement, va vers les métaphores, un langage symbolique. Le philosophe, instinctivement, va vers un langage précis, qui est beaucoup moins poétique, qui est une analyse par les causalités. Bon, nous allons continuer, mais continuer de réfléchir. Parce que ça reste ouvert, ça. Ainsi donc, on a dit, c'est la manière dont Aristote ensuite, voyez, montre bien qu'est-ce que c'est que cette définition qu'il nous donne. Et il reprend chacune des parties pour que nous comprenions mieux ce que ça veut dire. Nous étions arrivés donc à cette fin de choses, je relis un tout petit peu avant. D'autre part, tout ce qui a en soi un principe de cette sorte a une nature. Et toutes ces réalités sont une substance, car toujours la nature est un certain sujet et existe dans un sujet. Donc là aussi, c'est très intéressant de voir que substance, en philosophie de la nature, c'est le sujet. Substance, en philosophie première, c'est le principe. Substance, dans les catégories, c'est le sujet. Vous voyez ? Sont ou deviennent selon la nature. Enfin, selon la nature, ses substances et tous les phénomènes qui leur appartiennent par soi. Comme par exemple, pour le feu, celui d'être porté vers le haut. Ce phénomène, en effet, n'est pas une nature. Ni n'a une nature. Mais il existe par nature et selon la nature. Le phénomène comme tel, porté vers le haut, n'est pas nature, c'est le mouvement. Mais il a une nature. La nature, c'est pas le mouvement, comprenez ? Donc c'est ce qui se voit. La nature ne se voit pas, puisque c'est un principe. Ce qui se voit, c'est l'effet. Donc c'est le mouvement. Le mouvement, vous pouvez le sentir. Ça fait partie des sensibles communs. Tandis que la nature, vous ne l'avez jamais touchée. C'est à trop de tension. Vous seriez électrocuté dans votre sensibilité de toucher la nature. La nature ne peut que se saisir par l'intelligence. Et c'est pour ça qu'on ne peut la saisir que par induction. Vous voyez, c'est très joli comme ce qu'il dit ici. Hein. Comme par exemple, pour le feu, celui d'être porté vers le haut. Donc d'être porté vers le haut. Alors on glose en mettant phénomène. Moi je ne mettrais pas phénomène. Phénomène au sens ce qui se voit. Phénomène. Mais phénomène dans notre langage d'aujourd'hui n'a pas tout à fait le même sens. Je répéterai. Celui d'être porté vers le haut. Bon, ceci en effet n'est pas une nature. Ni n'a une nature. Mais il existe par nature et selon la nature. Être porté vers le haut. Ça se voit quand le feu fout le camp. Il monte. Ainsi donc, on a dit ce qu'est la nature. Alors ça, c'est très important. Un eiretai esti efusei. Donc, la nature est, voilà, ce qui nous est dit. Ainsi donc, on a dit ce qu'est la nature, ce qu'est par nature et selon la nature. Donc le fait d'être ou d'advenir par nature. Le grec dit le tito phousein. Kai kataphousin. Donc le tito phousein, c'est très très joli ça. Le tito phousein. Ce qui est par nature. Ce qui est selon la nature. Mais que la nature existe, cherchant à le démontrer, serait risible. Nous avions vu ça, n'est-ce pas ? Ça, c'est très important de voir que, pour Aristote, le fait d'exister, de moins l'essai, le toinein, est immanent au principe découvert. C'est risible de demander si la nature existe, puisqu'on est parti d'une réalité qui existe. Mais que la nature existe, chercher à le démontrer serait risible. Il est clair en effet que plusieurs des êtres sont de cette sorte. Or, démontrer les choses qui sont claires par le moyen de celles qui sont obscures et le fait d'un homme qui n'est pas capable de discerner ce qui est par soi et ce qui n'est pas accessible par soi à la connaissance, qu'il soit loisible, qu'il soit loisible de souffrir cette déraison. Ce n'est pas sans se voir parfois, car quelqu'un qui est aveugle de naissance peut fort bien raisonner par syllogisme concernant les couleurs, de sorte qu'il est nécessaire que le raisonnement tenu par les discoureurs de cette sorte soit un raisonnement concernant les noms, mais que rien n'y soit pensé. Vous savez ce que c'est que pour Aristote, hein ? Le raisonnement qui porte sur les noms et que rien ne soit pensé, Aristote pense aux sophistes qui se revêtent du manteau du philosophe. Donc ils emploient les mots du philosophe, mais ne pensent pas. Ils emploient les raisonnements du philosophe, mais ne pensent pas. Ça, c'est les sophistes. Il semble à certains que la nature et la substance des êtres par nature, soient ce qui appartient en premier à chacun, par soi sans proportion, comme le bois, par exemple, est la nature du lit, et les reins, la nature de la statue. Parce qu'il peut comprendre. Un sens, analogiquement, change un autre sens. C'est ça qui est très curieux. Venez, qu'est-ce qu'il pense ? Ce n'est pas les sens, c'est votre intelligence. Votre intelligence se sert des sens. Et votre intelligence est au-dessus. Et alors, il y a analogiquement cette chose très très curieuse, que l'intelligence se sert, normalement, mon intelligence se sert des cinq sens. Mais s'il y en a un qui fait défaut, les autres sens se développent plus. Et il y a une espèce de transposition analogique, puisque les sens sont analogiques, comme connaissance. Et il y a quelque chose qui supplée.
Qui est par soi accessible à la connaissance, ce qui n'est pas accessible par soi à la connaissance. Et Marc admet, mais ce qui est plus connaissable pour nous, après ce qui est plus connaissable en soi, ce qui est beaucoup plus le principe et la conclusion.
C'est quel le numéro ça ?
C'est 293A, DD.
DD. Oui, oui, le DD. DD. Oui. C'est hors démontrer les choses, hein, c'est ça. Qui sont claires par le moyen de celles qui sont obscures, et d'un homme, de quelqu'un qui n'est pas capable de discerner ce qui est par soi et ce qui n'est pas accessible par soi à la connaissance. C'est pour ça que j'avais dit hier, il ne fallait pas mettre par soi la connaissance, accessible à la connaissance. C'est ça qui est très curieux. D'un côté, Aristote met accessible à la connaissance, et de l'autre côté, il ne le met pas. Vous voyez ? Le par-soi fondamental, parce qu'il est évident. Donc il n'y a pas besoin d'être accessible à la connaissance.
Ça pourrait se traduire comme ça, connaissable par soi,
oui.
Ou qui n'est pas connaissable.
Oui, voilà. Et je dirais même pas connaissable. Oui. Parce que l'intelligibilité est propriété de ce qui est. Et du fait même que vous dites qu'il est par soi, bon, il est évident. Mais il n'est pas toujours accessible à nous.
Voilà. Parce que même la traduction.
Oui. C'est ça que je crois. Là. Oui.
Parce que même Marc Balmès, ce qui est plus connaissable à droite, pour nous, après, ce qui est plus connaissable en soi,
oui.
C'est pas pour nous.
Non, non, justement. C'est la distinction que fait saint Thomas, vous voyez, à propos de Dieu. Dieu est évident en lui-même et pas évident pour nous. Et c'est pour ça que mettre par soi accessible à la connaissance, c'est une petite glose qui diminue la force du catoto. Là, on fait des subtilités. Hein. Mais c'est très bien, c'est très bon d'avoir un texte devant, parce qu'on est obligé de le corriger.
C'est pas catoto, c'est diato.
C'est diato. To dia auto. Alors, qu'est-ce que vous diriez ? Le par soi, par lui-même. C'est par lui-même. Le dia. Ou pour lui-même.
C'est-à-dire que. Je tranche pas, mais je vais dire que ça pourrait être traduit comme dire à, c'est-à-dire comme une. C'est-à-dire
qu'on comment dire en français, c'est pas c'est le sujet passé. Oui, discerner le connaissable par soi et le non, le connaissable non par lui-même. Bon, c'est discerner. Ce qui est évident immédiatement et ce qui est évident médiatement. Je crois que c'est ça qu'il veut dire.
Hein?
Il me semble que c'est ça qu'il veut dire.
Disons que le tout va avec Norimon, donc. On doit traduire ce qui est Norimon, je ne sais pas comment traduire.
Norimon, le connaissable. Le connaissable par lui-même et le connaissable qui n'est pas par lui-même. Bon, le connaissable par lui-même, c'est l'évident. Et le connaissable pas par lui-même, c'est celui qui est connaissable immédiatement. Ou d'une autre manière. Vous voyez ?
Là, le problème de la tradition de Balmès, c'est qu'il traduit ce qui est par soi ou ce qui est connaissable ou le connaissable par.
Oui, c'est pour ça que je crois que c'est inutile d'ajouter, c'est simplement ça que je soulignais. C'est inutile d'ajouter accessible à la connaissance. Ce qui est par soi et ce qui n'est pas par soi accessible à la connaissance. Bon, accessible à la connaissance, c'est tout simplement le gnorimon. Le gnorimon ne dit pas accessible à la connaissance au sens absolu, il dit intelligible. Ce qui est connaissable. Bon, le connaissable est ou connaissable dia auto ou me dia auto. Il est connaissable par lui-même ou il n'est pas connaissable par lui-même. Le connaissable par lui-même, c'est ce qu'on appelle l'évident. Le connaissable qui n'est pas connaissable par lui-même, c'est celui connaissable par l'intermédiaire d'un autre. Bon. Avançons. Il ne faut pas tomber trop dans les subtilités, c'est pour ça. Un signe, en effet, dit Antiphon, que l'on enfouit un lit. Donc un signe, c'est le signe qui nous est donné. Séméion. Pour montrer où est la nature dans l'œuvre d'art. La nature dans l'œuvre d'art, c'est la matière de l'œuvre d'art. C'est ça qui est le moment, tout simplement. Et c'est la même chose pour la substance. La substance du pain, c'est pas la forme du pain comme tel, c'est la farine. Un signe que si l'on enfouit un lit, comme des macaronis, et que le produit de sa putréfaction reçoit une puissance de sorte que surgisse un rejeton, il ne saurait advenir un lit, mais du bois. Si le bois n'est pas trop abîmé, il a gardé sa vitalité que l'on a. Oui. Alors oui, c'est très joli, hein. Alors c'est toujours le point de vue de la nature, fluein, ce qui pousse. C'est toujours l'immanence. L'idée de l'immanence de la nature est très très importante. D'une part, ce qui se trouve inhéré par accident, la disposition, imprimée à la chose selon la coutume et l'art avec lequel cela se fait. Donc ce qui se trouve inhéré par accident, la disposition. D'autre part, cette substance qu'elle est, laquelle aussi demeure tout en subissant ses changements de manière continue. Ce qui se trouve inhéré par accident, c'est la forme artistique, le lit. Ce qui se trouve inhéré essentiellement, c'est la nature. Et ça, personne ne peut l'enlever. Et c'est comme ça que l'art est corruptible, à cause de la matière dans laquelle le cercle se trouve, le lit se trouve. Si alors l'on dit de chacun de ces êtres qu'ils subsistent, qu'ils subissent cette même disposition relativement à quelque réalité autre, comme par exemple l'airain ou l'or relativement à l'eau, les os, et le bois relativement à la terre, et n'importe laquelle des autres réalités de semblable manière. L'on dira ces réalités autres, être leur nature et leur substance. On dira c'est être leur nature et leur substance. Eh bien, c'est ce qui reste, c'est le sujet, au-delà de tous les changements. Donc c'est pour bien montrer que la nature n'est pas un accident. C'est ça qu'il veut le montrer. Qu'est-ce que vous voyez immédiatement sur les accidents? Ce qui tombe immédiatement à la vue, et à la vision, à l'expérience. Tandis que la nature est un principe qui est saisi par l'intelligence. En effet, cela que l'un d'eux conçoit être de cette sorte, soit à lui seul, soit à plusieurs, cela même, et en son nombre exact, il le dit être substance totale. Tandis que toutes les autres réalités en sont des affections, des pâtés, des avoirs et des dispositions. Et n'importe laquelle de ces substances existe pour toujours, car ils disent ne pas exister pour elles un changement qui se produirait à partir d'elles. Tandis qu'ils disent, les autres réalités advient et se corrompent en nombre infini de fois. D'une certaine manière donc, à savoir de la façon susdite, la nature est dite être la matière, sujet premier pour chacun des êtres ayant en eux-mêmes un principe de mouvement et de changement. Mais d'une autre manière, elle est dite être aussi la forme physique et eidétique. La forme eidétique étant pour nous celle que l'on saisit. Ça, c'est la glose marginale. N'est-ce pas? C'est la morphée et l'eidos. Alors ça, c'est très important de bien saisir. Donc vous voyez bien tout ce petit ce titre d'Aristote, hein, c'est pour essayer de montrer que ce principe immanent est ou la matière ou la forme. Donc, c'est ceci qui me semble important à bien saisir. L'induction aboutit à un principe propre. Principe propre du mouvement. De ce qui émue. J'opte pour le passif. Et on va voir que ce principe propre du mouvement, donc le mouvement, principe propre de ce qui émue, tout simplement, ce principe propre est matière. Et voyez comment il le montre. Que tous les mouvements ne sont pas la nature. C'est ce qui demeure. La nature, c'est ce qui demeure. C'est ce qui est au-delà des changements. Puisqu'elle est principe. Si elle est principe du mouvement, elle est au-delà du mouvement. Si elle était le mouvement, elle serait dans le mouvement. Or, la nature est au-delà du mouvement. Elle est principe immanent de ce qui est mu. Donc, elle est matière et elle est aussi forme. Donc la fameuse division nature-matière, nature-forme. Il est formé. Quand Gilson dit, et je rappelle la parole de Gilson parce qu'elle est intéressante, quand Gilson dit que toute la philosophie d'Aristote implique la division matière et forme, vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait juste. Déjà à ce niveau-là. Parce que ce qu'on saisit en premier lieu, c'est le principe. La nature, c'est ça. La phusis d'Aristote, c'est ça. En premier lieu, l'induction porte sur le principe propre de ce qui est mu. Principe immanent de ce qui est mu. Ensuite, on va me donner une division. Ce principe propre va de fait impliquer deux aspects. Une dualité. C'est très étonnant. Matière et forme. Et d'une certaine manière, on découvre la matière avant. La phusis apparaît comme premièrement matière. Et la phusis apparaît ensuite comme forme. Et alors, quand il donne la forme, il donne morphé et eidos. Alors ça, c'est intéressant. Bien voir ce qu'il nous dit là-dessus. Mais d'une autre manière, la forme physique est eidétique. La morphée. Allotropone, émorphé, to eidos, to katatologon. To katatologon. Voilà l'eidos. Donc, d'une autre manière, la forme, la morphée, c'est-à-dire la forme physique, c'est la forme, il faut dire la forme. N'a pas explicité physique. Et l'eidos, ben je ne dis pas eidétique, ce n'est pas la forme eidétique, c'est l'eidos. L'eidos, c'est l'eidos. Très difficile à traduire. Eh bien, l'eidos, le to katatologon, selon l'expression notionnelle. Difficile à traduire. Le selon la raison, selon l'intelligibilité. C'est ça l'eidos. C'est le selon l'intelligibilité. C'est ce qui ne qualifie pas Morphée. De même, en effet, que l'on dit art, ce qui advient selon un art et ce qui est accidentel, de même aussi l'on dit nature de ce qui advient selon nature et ce qui est naturel. Alors là, on verra ça parce que c'est très important de bien saisir la division que fait Aristote entre nature forme et nature matière. Ce qui est important à noter, c'est que la distinction nature forme et nature matière n'est pas première dans l'induction. Ce n'est qu'ensuite qu'on arrive à nature matière et nature forme. Vous voyez, on n'induit pas la forme. On n'induit pas la matière. On induit la matière. On induit la phusis. Ceci, c'est toute la différence avec l'œuvre d'art. L'œuvre d'art induit la forme directement et découvre la matière. Tandis que dans la perspective de la philosophie de la nature, l'induction porte sur le principe propre de ce qui est mu, et ce principe propre se sépare en deux, se divise en matière et forme. De temps en temps, la nature est matière, de temps en temps, elle est forme. Tropon, d'une certaine manière, elle est matière, d'une autre manière, elle est forme. Vous voyez comme c'est très délicat ça. Parce qu'un principe est indivisible. Comment un principe se divise-t-il ? Comment pouvons-nous diviser un principe propre ? Tout principe est indivisible.